RCF.
Et on reçoit le père Édouard d'Ivry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dominicain de la province de Toulouse et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le bienfait des controverses doctrinales dans l'Église ». Alors justement, on va s'arrêter sur quelques-unes de ces grandes controverses. On a le sentiment que finalement, vous relisiez l'histoire et que vous reveniez sur des grands moments pour lesquels l'Église aurait été d'une certaine manière victime de faux procès, comme si l'histoire avait fait un tri préjudiciable à l'Église. Est-ce que faire la vérité, c'est aussi relire l'histoire ?
Oui, et parfois on est surpris que cette relecture de l'histoire ne vient pas de nos propres rangs. Nous avons des historiens catholiques qui sont en même temps des théologiens et à qui revient normalement ce travail de reformuler dans leur recherche tout ce que l'Église a vécu comme une grande histoire sainte qui présente l'action de l'Esprit au cours des âges de cette expansion de l'Église à travers le monde. Mais parfois, d'une manière qui nous surprenne, ce sont des historiens, je dirais, laïcs, qui n'ont pas nécessairement le label de s'intéresser à des affaires ecclésiales, qui tout à coup suscitent un travail nouveau, un travail de recherche. C'est le cas dans l'université du Mirail à Toulouse, le grand professeur Benassar, qui a lancé les grands travaux sur l'Inquisition, et en particulier l'Inquisition espagnole. Il a découvert que tout ce que Michelet avait écrit, c'était du vent. C'est-à-dire qu'il avait tout écrit comme ça, d'une manière affabulatrice. C'était l'époque des légendes noires. On invente pour matraquer un petit peu l'adversaire, pour justifier aussi une politique gouvernementale de l'époque où il fallait liquider les congrégations et mettre à la place de nouveaux professeurs, des professeurs qui, évidemment, n'auraient pas la gentillesse d'attention vis-à-vis de l'histoire de l'Église, mais qui accentuerait plutôt la faiblesse des hommes. Et donc Michelet a forcé tous les chiffres, il a tout grossi, et ce sont toujours ces clichés qui restent. Et Benassar était communiste, il était marxiste, athée, il n'avait rien à voir avec une idéologie, je dirais, chrétienne. Et il a remis en question tout, et il a montré que tout ce que Michelet avait écrit, tout notre 19e siècle était faux, archifoué, que toutes les légendes, dans le fond, on peut, à partir de cette expérience de l'Inquisition, prolonger 1492, la conquête du Nouveau Monde, la légende non seulement de l'Inquisition, mais des croisades. Toutes ces légendes noires qui ont été reconstruites après ont été l'occasion de noircir les acteurs. Ça ne veut pas dire que tout était blanc. Dès qu'il y a des hommes, il y a de l'hommerie, comme on dit. Il y a toujours eu, hélas, des personnages sombres dans toute histoire, et à commencer par la communauté primitive de notre Seigneur, puisque parmi les 12, il y avait quand même un traître, Judas l'Iscariote. Et Paul VI était en admiration devant l'Église catholique romaine qui avait été très persécutée sous le régime communiste. Et il s'est trouvé qu'il y avait 12 évêques. 12 évêques, ils ont tous été incarcérés. Et Paul VI disait, c'est incroyable, mais dans les apôtres de notre Seigneur, il y a quand même eu un traître. Et là, les 12, ils sont sortis vainqueurs de la persécution. Aucun n'a trahi. La plupart sont morts dans les geôles de Ceausescu, mais ils ont tous gardé la foi. Et il disait, c'est vraiment pour moi une église exemplaire que ces témoins qui ont été jusqu'au bout de la foi, même dans les pires sévices de la persécution. Et on sait comment Ceausescu traitait ses opposants.
Alors, si on vient à l'Inquisition que vous évoquiez un peu auparavant, l'Inquisition, vous la présentez comme une conquête juridique établie pour éviter des lynchages qui étaient spontanés. C'est pas du tout comme ça qu'on l'apprend à l'école.
Non, du tout, du tout. C'est le grand progrès, si vous voulez, du juge instructeur, comme nous avons actuellement dans la République. Il y a eu une tentative un peu sous Sarkozy de repasser au système anglais accusatoire, mais pour l'instant, heureusement, on a résisté. C'est-à-dire, c'est bien qu'il y ait un juge d'instruction dans toutes les affaires pour qu'on puisse faire une véritable enquête, une enquête qui soit indépendante et non pas une sorte de tribunal dans lequel on apporte des preuves accusatrices et en face de vous, ceux que vous accusez doivent prouver le contraire. Donc il y a une espèce de jeu de bras de fer, si vous voulez, entre la partie accusatrice et la partie de la défense. Or, quand il y a un juge d'instruction, si vous voulez, il est très libre. Il peut chercher les choses dans un certain système de secrets et dans un système dans lequel tout n'est pas jeté aux yeux de tous et qui lui permet de chercher la vérité avec l'autorité, mais en même temps avec la discrétion.
Alors, quand vous évoquez les différentes controverses, vous vous arrêtez sur celle de Galilée, parce que c'est vrai que celle-ci, elle a beaucoup occupé les ouvrages, et puis les historiens, les scientifiques, et encore aujourd'hui, on a souvent à répondre, au fond, du temps qu'a mis l'Église. Est-ce qu'il est vrai que l'Église a perdu son ascendant sur la science à ce moment-là, ou bien, au contraire, depuis, on s'est aperçu que on était sur deux plans complètement différents ?
Alors, je pense que, une fois de plus, c'est une légende noire qui a été grossie longtemps après. Sur le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'allégations contre Galilée ou contre l'Église qui avait condamné le système de Galilée. C'est des siècles après que l'opposition s'est faite. Ce qui s'est passé sur le moment, c'est que Galilée avait des positions ecclésiales tout à fait délicates au point de vue du dogme, en particulier du point de vue de l'Eucharistie.
Et oui, qu'il était croyant, Galilée.
Il était catholique et il s'est soumis, même si c'était un tempérament assez explosif, si vous voulez. Il était bon catholique et il s'est soumis à chaque fois à ce qu'on lui a dit. Mais en fait, il s'est trouvé que sur l'héliocentrisme, qui était son système pour définir le monde des étoiles, le monde des planètes, eh bien, il avait tout à fait raison. Mais par contre, dans les domaines de la foi sur la transsubstantiation, des domaines de ce type-là, il errait pas mal, il se trompait. Et le pape de l'époque, qu'il aimait beaucoup, qu'il avait nommé le préfet de l'Assemblée des Lynx, qui est une académie pontificale pour la science, donc il a été le premier académicien, le premier préfet de cette académie, voulait le sauver. Et les papes de l'époque ont plutôt fait en sorte que ce soit ce problème de l'héliocentrisme qui soit mis en débat, plutôt que les problèmes plus profonds théologique sur lequel il s'était prononcé et qui a fait que finalement il a eu une peine extrêmement sévère puisqu'on lui a seulement demandé de déclarer qu'il désavouait sa proposition et on lui a demandé seulement de se mettre un peu à l'écart de Rome dans des belles villas où il a pu continuer ses expériences. Et la petite pénitence qui lui a été donnée, c'est sa propre sœur qui était religieuse qui a eu le devoir imposé par Galilée de le réaliser. Il avait des psaumes pénitentiels à dire tous les jours et comme ça l'embêtait un peu à faire, il a donné ça à sa sœur et sa sœur a d'une certaine manière permis à Galilée de commuer sa peine. Donc en général, dans le monde des contemporains, quand on parle de l'affaire Galilée, on s'imagine que Galilée a été brûlé, si vous voulez, et c'est pas du tout le cas. Il a une vie tout à fait tranquille jusqu'à sa mort. Et les livres sur l'héliocentrisme qui avaient été mis à l'index par une congrégation qui ne dépendait pas directement du pape, ce n'est pas une condamnation du pape, c'est une condamnation seulement d'un tribunal secondaire, si vous voulez, de ce qui était à l'époque une sorte d'inquisition rénovée sous Paul IV, eh bien, ces ouvrages ont été mis à l'index jusqu'au moment où Newton, pour de bon, a démontré l'héliocentrisme.
Mais au fond, c'est un peu ce que vous disiez en début d'émission, c'est-à-dire que là aussi, ces interrogations, ces interpellations ont permis aussi à l'Église de mettre au clair qu'on ne s'appuyait pas sur l'Écriture pour démontrer quelque chose de scientifique.
Alors ça, c'est tout à fait juste. Comme disait quelque temps avant, malheureusement, il était mort au moment du procès Galilée, le grand cardinal Baronius, l'Écriture n'est pas donnée pour décrire comment est le ciel empiré, le ciel créé, mais comment on va au ciel, hein, le ciel surnaturel. Et malheureusement, Baronius n'était plus là pour défendre ce point de vue, mais Galilée l'avait compris. Il avait compris que l'Écriture ne devait pas s'interpréter d'une manière littéral d'une manière dont on avait fait de grands cas à l'époque de Luther. Luther avait beaucoup insisté sur la lecture littérale, et d'ailleurs la plupart des protestants étaient contre l'héliocentrisme.
Mais est-ce qu'on pourrait pas dire qu'aujourd'hui on fait une lecture politique de l'écriture ?
Alors c'est effectivement une tentation récurrente, parce que la politique fait partie dans le fond de la vie humaine. L'homme est un animal politique, comme disait Aristote. Et c'est vrai que dès qu'il y a un bien commun à défendre, inévitablement, on peut trouver des arguments dans l'écriture qui confortent une défense, une certaine modalité de défense du bien commun. Et les choses peuvent aller dans un sens, dans un autre. Regardez les Byzantins. À l'époque de l'Empire byzantin, reprenait volontiers des arguments de l'Ancien Testament pour montrer qu'il y avait des rois qui étaient en même temps prêtres, comme Melchisédek, qui étaient des personnes qui dirigeaient le monde terrestre et en même temps étaient sacrés, si vous voulez. Et puis, dans l'Église occidentale, on défendait beaucoup plus la parole de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Vous voyez, donc, on tirait un morceau de l'Écriture pour des justifications, si vous voulez. Et peut-être qu'on n'avait pas assez compris la hiérarchie des vérités et que l'Évangile doit toujours dépasser, évidemment, ce qui est déjà dit dans la Première Alliance.
C'est une tentation de vouloir trouver de la science, du politique, du social aussi, du sociétal même aujourd'hui dans l'écriture.
Dans l'écriture. Bon, l'écriture illumine toute chose. Comme dit saint Paul, je tiens toute pensée captive dans le Christ. Donc il y a quand même quelque chose, si vous voulez, qui doit être recherché dans l'écriture pour y trouver de la lumière et que cette lumière puisse rejaillir sur ce que nous vivons. Donc la démarche n'est pas complètement fausse, mais on peut être très vite tenté de se focaliser sur un petit passage de l'écriture au détriment de tout le reste.
C'est toute
l'écriture qui doit être mise en sollicitation pour interpréter.
Merci Père Édouard d'Ivry, je rappelle que vous êtes docteur en théologie, vous êtes aussi dominicain de la province de Toulouse. Merci à vous.